Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat comme tous les soirs sur France Culture entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, y a-t-il encore une diplomatie à la française? La France, qui se rêve encore comme une grande puissance, possède le second réseau diplomatique au monde. Elle appartient au Conseil de sécurité de l'ONU. Elle vient d'organiser le G7 à Biarritz et elle a tenté récemment de renouer le fil du dialogue entre États-Unis et Iran. Mais dans un monde multipolaire où la Chine et l'Asie tentent d'apprendre une place prépondérante, que peut encore la France et sa volonté de conserver le dialogue entre tous, même les plus opposés? Comment jouer sur tous les claviers de la puissance, comme on dit, pour exister encore dans la diplomatie d'aujourd'hui? Y a-t-il une présidentialisation renforcée de la diplomatie française? Nous allons poser la question à nos trois invités. Claude Martin, il est ancien ambassadeur de France, il est auteur de « La diplomatie n'est pas un dîner de gala » aux éditions de l'Aube, un magnifique livre de souvenirs dont nous parlerons avec lui. Il est en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Saint-Étienne. Nous remercions ces studios de l'y accueillir. Delphine Placidifraud est avec nous, elle est professeure de sciences politiques à Paris-Sud. Elle est co-auteure de Négociations internationales aux presses de Sciences Po et co-directrice du master Diplomatie et négociations stratégiques. Et Maxime Lefebvre est également avec nous en studio ici. Il est diplomate, professeur à ESCP Europe et auteur du Que sais-je sur la politique étrangère de la France qui vient tout juste de sortir aux presses universitaires de France.
Écrivez-moi une vision claire à 20 ans sur le Moyen-Orient, avec des mots simples pour une fois. Christian, répondez-moi à ce connard, un paragraphe grand maximum, et Castella, un paragraphe, mais taillé à la serpe sur le rôle des Nations Unies. Allez au boulot. Bah tiens, Jean-Paul va vous cornaquer, ça mettra un peu de hauteur et d'intelligence dans votre suppositoire géant.
Un peu de complexité.
Arthur, dès que c'est prêt, vous mettez ça dans votre mixeur, avec des parois étanches, le mixeur.
Vous aurez reconnu, bien évidemment, l'acteur Thierry Lhermitte dans le film de Bertrand Tavernier, Quai d'Orsay, qui adaptait une bande dessinée dans laquelle on voyait un ministre des Affaires étrangères extrêmement actif, joué ici donc par Thierry Lhermitte, qui demandait à ses conseillers d'écrire tout le temps de nouveaux discours, de nouvelles notes, pour pouvoir faire la politique extérieure de la France. Il était très énervé, ministre des Affaires étrangères, qui ressemblait beaucoup à Dominique de Villepin. Bonsoir Claude Martin.
Bonsoir.
Vous en avez connu des moins agiles et des moins rapides, des ministres des Affaires étrangères?
Oui, mais Dominique de Villepin était un grand ministre.
Ah non, je ne dis pas qu'il n'était pas un grand ministre, je dis simplement que cette représentation extrêmement sautillante d'un ministre était tout à fait remarquable, puisque dans le film de Bertrand Tavernier, on s'en souvient, chaque fois qu'il entrait dans un bureau, toutes les feuilles volantes volaient, justement, parce qu'il était trop rapide. C'était son style. Vous racontez dans La diplomatie n'est pas un dîner de gala, qui est un formidable livre paru l'année dernière, qui a d'ailleurs obtenu des prix depuis, un livre de souvenirs d'ambassadeurs, on en connaît beaucoup, mais rarement comme le vôtre. Claude Martin, vous avez été ambassadeur en Chine en particulier, vous connaissez très bien l'Asie du Sud-Est, vous avez été également à Berlin et vous êtes beaucoup intéressé à la politique européenne en tant que diplomate. Quand vous racontez par exemple votre arrivée en 1986 à la direction de l'Asie-Pacifique, je crois me souvenir, vous, Asie-Océanie, vous vous posez une question toute simple, vous dites: que pouvions-nous faire pour rendre la France plus présente dans tous ces pays? C'est une question essentielle de la diplomatie française que d'être présente dans tous les pays, justement, alors qu'on pourrait penser qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, on pourrait laisser la main dans certains de ces pays, et vous non.
La France n'a pas le droit d'être absente dans le monde. Je pense qu'elle porte avec elle une histoire, une image, un rôle, des valeurs. Et si elle est absente, si elle est silencieuse, les autres pays du monde viennent la chercher en disant « Mais la France, que dit-elle? Que fait-elle? Nous avons besoin de la France ». Donc il est très important qu'elle soit présente et le fait que nous ayons un grand réseau diplomatique nous permet d'être informés de ce qui se passe partout dans le monde. La question est simplement de savoir si nous avons aujourd'hui les moyens d'agir tout seuls, si nous sommes écoutés, ou si dans certains cas, c'est la thèse que je défends dans le livre que vous avez bien voulu citer, si dans un certain nombre de cas, maintenant, nous ne devons pas passer à une action plus collective. Mmh. Alors, c'est le problème de savoir dans quel système européens, nous pouvons agir. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, nous devons agir avec quelques-uns de nos partenaires. Si nous voulons que la voix française puisse être conjuguée avec d'autres voix européennes, je crois beaucoup à un rôle de l'Europe en même temps qu'un rôle de la France. Et le problème est de savoir comment l'Europe s'organise pour jouer un rôle.
Maxime Lefebvre, vous publiez un livre donc sur la politique étrangère de la France. Vous êtes vous-même diplomate. Vous vous posez cette question justement de la place de la France dans la diplomatie internationale. Et on voit bien qu'il y a dans des déclarations récentes d'Emmanuel Macron, des changements de ligne, en tout cas des infléchissements avec la volonté effectivement de rabibocher les États-Unis et l'Iran si c'est possible. Ça ne semble pas tout à fait possible ces temps-ci, de tenir sa voix particulière et de pousser aussi les Européens à avoir une diplomatie européenne commune. Est-ce que ça vous semble possible justement de passer de ce statut de grande puissance dans laquelle la France parlait au nom d'elle-même à un statut de grande puissance dans laquelle la France parlerait au nom de l'Europe ?
Pour moi, les deux se combinent. C'est-à-dire que la France continue d'être une grande puissance, une puissance moyenne, mais quand même...
Ouais, il faut dire une puissance moyenne. Depuis Valéry Giscard d'Estaing, on dit puissance moyenne.
Oui, c'est vrai. Mais en même temps, quand on regarde les classements, il y a une revue qui a fait un classement à la revue Conflit des puissances, et la France se trouve quand même au quatrième rang, par exemple, juste après la Russie, avant l'Allemagne.
Qu'est-ce qu'on appelle puissance militaire, en l'occurrence
C'est l'économie, c'est le militaire, c'est la présence outre-mer, c'est la culture, c'est l'aide au développement. Enfin, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte, et quand on regarde tous ces facteurs combinés, la France ne s'en tire pas si mal. Elle est quand même encore un pays qui a une influence mondiale, avec des problèmes de moyens, comme le rappelait Claude Martin, mais on joue un rôle. Alors ça se combine avec une action à l'intérieur de l'Europe, c'est-à-dire qu'en fait on est un moteur de la diplomatie européenne, mais la diplomatie européenne ne se substitue pas à la diplomatie française. On joue collectif, comme le rappelait Claude Martin, et si vous regardez ce que le président fait sur l'Iran ou sur la Russie, il peut y avoir des inflexions données par chaque président en fonction de ses propres priorités, sa propre vision, son propre style, mais on observe là une continuité. Sur l'Iran, par exemple, les négociations ont lieu depuis 2003, et depuis 2003, la France est un pays moteur pour essayer de trouver un accord qui stoppe la prolifération nucléaire en Iran. Donc oui, on peut être une grande puissance et en même temps être un moteur de l'Europe.
Delphine Placidifro, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes, je rappelle, professeur de sciences politiques à Paris-Sud et spécialiste des questions internationales, des relations internationales. Cette prétention à garder son rang d'une certaine façon et à jouer collectif de l'autre côté, est-ce que c'est si nouveau que cela? Et si c'est nouveau, est-ce que c'est assumable dans une durée de temps raisonnable, c'est-à-dire de vouloir garder son rôle et sa voix propre, mais en même temps parler avec et au nom des autres?
Non, je crois que ça n'est pas nouveau, et c'est même l'un des traits constitutifs de la diplomatie française, qui en fait sa singularité, qui en fait également parfois l'ambiguïté des messages portés. Je me référais au sous-titre de l'ouvrage d'une de mes collègues, Marie-Claude Smoots, qui avait travaillé, l'une des premières à avoir travaillé sur la France aux Nations Unies dès les années 70. Et elle avait à l'époque déjà sous-titré son ouvrage sur la France à l'ONU, premier rôle et second rang. Et c'est typiquement ça, c'est-à-dire que la France aspire à la fois à jouer un rôle de tout premier rang sur la scène internationale, sans avoir forcément toujours les moyens de sa puissance. C'est vrai qu'elle reste très bien classée militairement, économiquement, culturellement également. La langue française porte évidemment à l'international. Et en même temps, elle n'assume plus systématiquement, depuis les années 90, de jouer toujours cavalier seul. C'est-à-dire qu'elle elle a toujours à cœur de chercher ses alliés européens, l'Allemagne, la Russie, les États-Unis, selon évidemment les coalitions ou les chefs d'État au pouvoir, pour ne plus systématiquement parler de façon isolée sur la scène internationale.
C'est d'ailleurs le cas qu'on a appris donc dans la journée d'aujourd'hui à propos de ce qui est en train de se passer en Turquie, à la frontière turque, vis-à-vis du Kurdistan, en particulier des Kurdes qui se trouvent de l'autre côté de la frontière turque. Amélie de Montchalin, donc secrétaire d'État aux Affaires européennes, a dit, c'était il y a quelques heures, que la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni étaient en train de finaliser une déclaration commune qui serait extrêmement clair. Donc on s'allie avec d'autres puissances européennes pour pouvoir condamner ce qui est en train de se passer de ce côté-là. On peut écouter d'ailleurs le son d'Édouard Philippe. Il était hier à l'Assemblée nationale, avant même qu'on annonce cette offensive turque. Mais néanmoins, il l'avait déjà plus ou moins prévu, puisqu'elle était dans l'air.
Les combattants des forces démocratiques syriennes, FDS, dont les Kurdes, ont joué, nous le savons tous, un rôle clé pour permettre la défaite territoriale de Daesh en Syrie. Le combat contre Daesh n'est pas terminé. Il ne s'est pas terminé avec la fin de l'emprise territoriale de ce groupe terroriste et il se poursuit aux côtés des forces démocratiques syriennes et il reste notre première priorité en Syrie. Cela ne fait que renforcer la nécessité de préserver les forces démocratiques syriennes, en particulier dans un contexte où les menaces d'offensives turques font peser de très lourdes incertitudes sur le nord-est de la Syrie. C'est ce que nous disons de façon régulière et constante à tous nos interlocuteurs, turcs ou américains.
Voilà donc ce que disait le Premier ministre hier à l'Assemblée nationale, Claude Martin. Cette ambition est de garder les voies ouvertes des deux côtés. Nous disons cela à tous nos interlocuteurs, dit en l'occurrence Édouard Philippe. Tout de même, une des questions, c'est est-ce qu'on va aussi parler à nos alliés kurdes? Vous savez que le Congrès américain a décidé de condamner, enfin de se mettre en travers du chemin de Donald Trump en disant qu'il faut désormais prier pour les alliés kurdes qui ont été honteusement abandonnés par l'administration Trump. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme celui-ci? Je ne fais pas de politique fiction, Claude Martin, mais il y a eu bien des cas comme ceux-ci que vous avez connus en tant que diplomate. Qu'est-ce qu'on fait? Continuer à parler et en même temps donner du soutien à ceux qui nous ont aidés à un moment donné.
Vous disiez nos alliés kurdes. Je pense que l'expression n'est pas bonne. Ce sont nos amis kurdes. Nous avons compassion.
C'était une expression du Congrès, oui.
Pour les Kurdes. Mais la société internationale, elle est composée d'États. Et la diplomatie française traditionnelle, puisque c'est le titre de votre émission, c'est de se référer aux spécificités, aux traditions de la diplomatie française, elle se fonde sur les États et sur la souveraineté des États. Donc nous avons joué au cours des dernières années, mais je ne ferai pas ici une analyse rétrospective de la politique française à l'égard du conflit syrien dans les dernières années. Nous avons joué sur une position très ambiguë qui consistait à se féliciter que les Kurdes nous aident dans nos ambitions sur le terrain, et tout en sachant que nous ne pouvions rien pour eux. Nous le savions depuis longtemps, nous ne pouvions rien pour eux le jour où la négociation pour une solution du problème interviendrait, puisque cette négociation, c'est une négociation entre les États. Donc nous pouvons appeler à la modération du régime syrien, mais pour ça, il faut que nous reprenions un vrai dialogue avec le régime syrien. Nous pouvons dialoguer avec la Turquie, mais pour ça, il faut que nous ayons un dialogue substantiel avec la Turquie, et puis nous devons parler avec la Russie, ce que le président de la République a recommencé à faire depuis quelques mois. La diplomatie, elle consiste à avoir de bonnes relations et des relations de discussion franches avec toutes les parties autour d'un conflit.
Ça veut donc dire, Maxime Lefebvre, que lorsqu'on s'est engagé et qu'on a cru, en tant que citoyen ou en regardant ce qui était en train de se passer dans les années 90, le droit d'ingérence, toutes ces idées qui étaient défendues par des présidents français ou par des ministres des Affaires étrangères, on se serait fourvoyé d'une certaine façon en pensant qu'il y avait une diplomatie qui pouvait maintenir des canaux humanitaires, qui pouvait faire en sorte que l'on sauve des populations civiles contre leur tutelle, qui était donc des États.
C'est compliqué. C'est le débat sur l'ingérence humanitaire, sur l'intervention internationale. Bon, il y a un exemple d'intervention qui a fonctionné, c'est l'intervention qu'on a eue dans la crise du Kosovo en 1999.
Un exemple qui n'a pas fonctionné?
Alors un exemple qui a moins bien fonctionné, c'est par exemple la Libye en 2011, où on a voulu appliquer la responsabilité de protéger. Il y a eu une résolution du Conseil de sécurité qui a été adoptée, et on l'a poussé jusqu'à renverser Kadhafi, ce qui a été critiqué par une partie des membres du Conseil de sécurité, une partie de la communauté internationale, et on voit que depuis 2011, on a beaucoup de mal à stabiliser la Libye. Donc intervenir, oui, mais ça a toujours un coût, ça suffit pas d'intervenir, il faut encore pouvoir derrière assurer une stabilisation. Et dans le cas de la Libye, on n'y a pas réussi. Donc je pense que par exemple, la raison pour laquelle on s'est retenu dans le conflit syrien, et où il n'y a pas eu d'intervention occidentale, c'est probablement aussi une conséquence de nos échecs sur la Libye.
Delphine Placidifro.
Oui, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Et je pense également qu'au-delà de la déstabilisation qui peut être faite et finalement des conséquences plus perverses encore que la situation antérieure à une intervention militaire, il y a aussi des conséquences diplomatiques à moyen voire à long terme. C'est-à-dire que déjà sur le Kosovo, la décision d'intervention militaire avait été prise par l'OTAN, hein, puisqu'il y avait un risque qu'au Conseil de sécurité, il y ait un veto russe, évidemment, sur une intervention de cette nature. Ça a déjà considérablement refroidi les relations diplomatiques aux Nations Unies. Et au moment du dossier libyen, la Russie notamment et la Chine ont accepté la résolution d'intervention sur la Libye avec l'idée très ferme qu'il n'y aurait aucun renversement du régime de Kadhafi. Or, c'est ce qui s'est effectivement passé. Et depuis, au Conseil de sécurité, tous les dossiers sont désormais bloqués par une menace de veto parce que justement, il n'y a pas d'unité de la dite communauté internationale sur cette notion très controversée de l'intervention militaire.
Claude Martin, est-ce que justement cette vision des relations internationales un peu bouleversée dans les années 90-2000 serait désormais terminée? On reviendrait à une diplomatie plus sage ou plus classique, pourrait-on dire, où ces questions d'intervention humanitaire, d'ingérence seraient derrière nous?
Je pense que, comme ça vient d'être rappelé, ce que nous avons fait dans le conflit libyen est allé trop loin. Il y a effectivement une certaine sensibilité internationale qui impose de lire aujourd'hui cette notion de respect de la souveraineté des États en ayant de l'attention pour le sort des populations. Mais on ne peut pas aller trop loin. Et en étant allé trop loin dans le cas libyen, nous avons aujourd'hui une réaction non seulement de la Russie et de la Chine, mais de la plupart des États dans le monde qui disent « Attendez, si vous recommencez à jouer selon un scénario de type libyen, nous ne pouvons plus jouer avec vous. » Donc il faut revenir à un respect de la souveraineté des États. C'est d'ailleurs la base de la Charte des Nations Unies et c'est ce qui fonde l'autorité de la France au Conseil de sécurité. Si on commence à toucher à cela et à détricoter le système international, comme M. Trump détricote le système commercial international, si on abat toutes les règles du système international économique, politique, diplomatique, nous sommes de nouveau dans la jungle. Donc il faut revenir à un respect des souverainetés. Ceci n'empêche nullement d'intervenir auprès des uns et des autres pour obtenir des solutions équilibrées et qui respectent le droit humanitaire. Mais ça suppose, encore une fois, que nous ayons la possibilité de parler à tout le monde. Je pense que dans les dernières années, nous nous sommes privés d'un certain nombre de canaux de communication avec des puissances très influentes dans le dossier syrien, puisqu'on parle du dossier syrien en particulier, et qu'il faut d'abord rétablir très vite ces canaux. Ensuite, il faut voir comment nous intervenons. Je reviens à l'idée d'une action européenne. La France toute seule, elle pèse, mais elle ne pèse pas suffisamment pour agir. Et je trouve très bon que nous soyons aujourd'hui en concertation avec l'Allemagne et le Royaume-Uni en train de définir une position européenne. C'est pour moi la vraie action européenne. Le système diplomatique européen, 28 membres, on sait tous aujourd'hui que ça ne fonctionne pas, que c'est trop lourd, que c'est quelque chose qui nous conduit en fait à l'impuissance et au silence de l'Europe. En revanche, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ensemble, définissant une position commune, c'est très fort.
Ça veut dire que vous êtes d'accord, entre guillemets, hein, je ne vous mets pas exactement sur le même plan, que Jair Bolsonaro, quand il critique l'idée d'une ingérence environnementale, on a fait une émission récemment sur cette question. Peut-il y avoir un droit d'ingérence environnementale qui prendrait le relais du droit d'ingérence humanitaire? C'était à propos de l'Amazonie. Vous pensez, Claude Martin, que tout cela, ce sont des fadaises, que ça n'est pas possible d'imaginer qu'on passe au-dessus de la souveraineté des États, comme le dit d'ailleurs Jair Bolsonaro soi-même. Vous êtes colonialiste quand vous voulez entrer sur notre propre territoire, dit-il à Emmanuel Macron. C'était à la fin du mois, au tout début du mois de septembre.
Je pense qu'il y a plusieurs façons de s'adresser à un État, à un gouvernement, à un président pour l'amener à une position raisonnable. Mais c'est vrai que personne ne peut intervenir, ni militairement, ni d'autre façon, à l'égard du Brésil, pour l'amener à changer la politique qui était définie à l'intérieur du cadre constitutionnel brésilien. Ce qui, en revanche, est pertinent, c'est de voir en quoi le Brésil viole ou ne viole pas ses engagements internationaux, et notamment ce qu'il a pris comme engagement lors de la conférence de Paris.
Alors, je vous propose d'écouter une autre vision des relations internationales. Pardon, il s'agit de Donald Trump. Il était le 24 septembre dernier à la tribune des Nations Unies.
L'avenir n'appartient pas aux mondialistes. L'avenir appartient aux patriotes. L'avenir appartient aux nations souveraines, indépendantes, qui protègent leurs citoyens, respectent leurs voisins, honorent les différences qui font que chaque pays est unique.
Voilà, c'était donc la vision de Donald Trump à la tribune des Nations Unies. Maxime Lefebvre, en quoi une vision comme celle-ci, qui est relativement classique ou traditionnelle, pourrait-on dire, est-elle difficile à manier dans un contexte international comme aujourd'hui ?
Le problème, c'est que les États-Unis, bon, ils ont très longtemps été isolationnistes. Bon, ils ont souvent été aussi unilatéralistes, exceptionnalistes, mais ils ont quand même porté, après 1945, la construction d'un ordre multilatéral, d'abord dans le domaine économique, mais même les Nations Unies ont été voulues par le président Roosevelt à l'époque. Donc aujourd'hui, voir les États-Unis revenir à une posture plus nationaliste, où au fond, il n'y aura plus que...
Patriote, dit-il.
Voilà, alors nationaliste, patriote, populiste, bon. Donc on aurait plus que des États qui suivent leurs intérêts avec moins de multilatéralisme, moins de limitations de souveraineté, c'est quand même compliqué. Je pense que ça va bien dans le sens de l'évolution générale du monde, mais ça rend effectivement les choses compliquées. Vous parliez de l'exemple de l'environnement. Bon, malgré tout, l'Amazonie, c'est un bien mondial. Donc, c'est un problème si le Brésil supprime la forêt amazonienne. Donc, il doit y avoir des moyens de coopérer ensemble, de se fixer des limites, de telle manière qu'on arrive quand même à construire des règles communes et à faire progresser l'humanité, la vie internationale, la coopération internationale, l'économie internationale. Donc cette vision, elle a quand même ses limites.
Delphine Placé-Diffraud, sur cette vision américaine d'aujourd'hui, qui n'est pas forcément la vision de toujours des États-Unis, par rapport à la position française et à la diplomatie en train de se développer aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Je pense que il y a également un outil dont on a parlé indirectement, mais qui est assez peu utilisé aujourd'hui en matière diplomatique, c'est l'importance du droit international. Que ce soit le droit, effectivement, à travers les conventions et les grands traités multilatéraux de protection de l'environnement, hein, qui sont systématiquement ou régulièrement violés, on l'a vu également sur le cas de l'Amazonie, et des accords de Paris, bien sûr. Mais même si on revient un instant sur le cas de la Libye ou du Kosovo, etc., il y a un outil qui est, alors peut-être désormais mal en point, mais qui a été assez peu utilisé pour traiter des violations du droit international, à l'exception de certaines dictatures africaines, c'est la Cour pénale internationale. Hein. Et donc on a aussi des outils autres que l'intervention militaire ou l'isolationnisme diplomatique. C'est vrai que la Cour pénale internationale, aujourd'hui, c'est un acteur dont on entend beaucoup moins parler qu'il y a encore quelques années.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
On m'appelle Excellence, on loue mon élégance. Je reçois les présidents, les monstres, les marchands, les tyrans, ou les démocrates, professeurs, diplomates. Par l'ambassade, je danse sur une file, les yeux fermés sur mes secrets. Je suis un peu artiste et un peu acrobate, profession diplomate. Oui, il y a des guerres en moi, mais jamais je m'éclate, profession diplomate.
Il y a des guerres, mais jamais elles n'éclatent, dit Iggy Pop dans ce titre qui s'intitule Diplomate. Nous sommes dans le temps du débat, un temps du débat consacré aujourd'hui à la diplomatie à la française avec nos trois invités, Delphine Placé-Diffraud, Maxime Lefebvre et Claude Martin. Claude Martin, vous êtes en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Saint-Étienne, France Bleu Saint-Étienne-Loire. Une des questions qui se pose aujourd'hui, c'est, disons, ce sont les outils dont on dispose en France pour pouvoir faire la diplomatie, et en particulier ces outils qui sont à la fois de soft power et de hard power. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a dit le 29 août, au moment de la conférence des ambassadeurs, il n'y a plus de soft power pour la diplomatie française, on est partout dans le hard, a-t-il dit. Qu'est-ce que vous entendez quand on dit cela ?
Je voulais d'abord, si vous le permettez, oui, revenir sur l'échange précédent à propos du Brésil, parce que je ne veux pas, et c'est peut-être une façon de répondre à votre nouvelle question, je ne veux pas qu'on ait l'impression que cet attachement classique, et qui est le mien, au droit international et à la souveraineté des États, signifie inaction. Dans le cas du Brésil, face à un État souverain et face à un président qui est le président constitutionnel, nous devons d'abord respecter la souveraineté de l'État qu'il préside. Ça, c'est tout à fait clair. En même temps, nous devons vérifier quels sont les engagements du Brésil, les engagements internationaux. Et si, effectivement, il y a violation des engagements que le Brésil a pris vis-à-vis de la société internationale, nous devons le ramener au respect de ces engagements. Et puis, nous avons une possibilité d'action. Et l'action, c'est le traité que l'Union européenne est en train de conclure, de signer, de ratifier avec le Mercosur. Il est évident qu'on ne peut pas donner à un État qui se comporte ainsi vis-à-vis de ce bien
commun
mondial qu'est la planète, s'il se comporte mal, nous devons de notre côté réviser les attitudes que nous avons à son égard, et la coopération n'est obligatoire à l'égard de personne. Donc je pense que ça, c'est tout à fait clair, ça n'est le respect de la souveraineté ne veut pas dire l'inaction. Je viens maintenant à votre question sur le soft power. Je pense que la France a un grand soft power. Le grand soft power de la France, c'est son image. Quand vous parlez de la France quelque part, vous voyez tout de suite les attitudes changer, parce que vous parlez, quand vous êtes diplomate français, vous parlez au nom de la France. C'est différent de tout ce que un autre diplomate, un autre ambassadeur d'un autre pays peut dire, parce que c'est la France qui s'exprime. Mais je ne pense pas qu'il y ait du chauvinisme là-dedans. Je l'ai vécu pendant 50 ans. Il est arrivé quelquefois que la diplomatie française ne soit pas à la hauteur de ce que nos partenaires dans le monde, de ce que les amis de la France dans le monde attendent. Et il m'est arrivé très souvent d'entendre des interlocuteurs dire « ça, monsieur l'ambassadeur, ça n'est pas la France ». Il y a une attente à l'égard de la France, et c'est là-dedans que réside le soft power. Mmh. Nous avons un devoir de nous exprimer en fonction des valeurs françaises, en fonction de notre histoire, en fonction de notre culture, en fonction de ce que nous représentons. Et je pense que dans les positions que la France prend dans le monde, cet élément est très important. Et le deuxième élément qui évidemment équilibre le premier, c'est de savoir comment on fait pour faire parler la France, et comment on fait pour que la France soit écoutée. Ça, c'est le problème des moyens. Et ce problème des moyens, il passe beaucoup par une concertation européenne.
Est-ce que c'est en ayant de l'audace, comme le président Macron l'a demandé aux diplomates, que l'on peut justement avoir une autre parole, Maxime Lefebvre, vous qui êtes auteur de la politique étrangère de la France, ou avoir une action diplomatique disruptive, puisque ça fait partie des nouveaux mots qu'on utilise un peu partout désormais, et c'est un mot qu'on applique à la nouvelle action diplomatique de la France supposée depuis quelques mois.
Oui, alors l'audace, ça veut dire faire des propositions, être en initiative. C'est pas quelque chose de nouveau. La diplomatie française a envie de jouer un rôle. Donc, qu'on ait un président ambitieux par rapport à cette exigence d'audace, c'est à la fois une continuité, et puis en même temps, ça montre qu'il y a aujourd'hui un grand volontarisme, une grande ambition.
Mais aussi une vision peut-être d'accord diplomatique qui serait plus en retrait, qui prendrait moins de risques, et que le président veut secouer dans un contexte de présidentialisation de l'action diplomatique.
Je ne crois pas qu'il y ait de présidentialisation de l'action diplomatique, parce que si vous regardez vous voyez, du temps du général de Gaulle, c'est le général de Gaulle qui faisait la politique étrangère de la France. François Mitterrand, il jouait un rôle très important. Nicolas Sarkozy, c'était aussi quelqu'un qui était sans arrêt en initiative, qui secouait aussi la machine. Donc forcément, il y a toujours une interaction entre une machine diplomatique qui est un peu plus dans la bureaucratie, dans la continuité, dans une certaine routine, et puis un pouvoir politique qui doit apporter des impulsions, un volontarisme. C'est quelque chose qui ne me semble pas nouveau.
Delphine Placidifraud, passer d'une guerre de tranchées, dit le président, à une guerre de mouvement. Tout de même, c'est quand même un peu... On ne se pensait pas en guerre, mais enfin, ça y est.
Oui, mais je pense effectivement que c'est aussi un élément de langage, comme on dit aussi en diplomatie et dans le reste du discours public et politique. Je pense que la politique étrangère, comme toute politique publique, est une politique qui a une inertie, hein, c'est un paquebot, et donc on ne change pas de cap si facilement, à la fois parce qu'il y a des orientations, il y a des engagements qui sont pris à l'égard des partenaires, il y a toute une bureaucratie, et puis il y a des attentes également des partenaires qui n'évoluent pas systématiquement. Donc je pense qu'il faut faire la part des choses entre effectivement la tentation d'un président qui n'est pas le premier à essayer effectivement de moderniser l'administration, d'impulser un mouvement, du changement, etc. Et puis finalement, très souvent, une continuité. Hein. Il y a toujours un peu le langage de la rupture dans la continuité en diplomatie. Et en diplomatie, peut-être plus que dans d'autres politiques encore nationales.
Claude Martin, vous en avez connu beaucoup des présidents, donc vous pouvez juger justement de celui-ci par rapport aux autres. Et de cette question, parce qu'on la trouve un peu partout dans la presse, ou je ne sais si ce sont des éléments de discours ou des éléments de langage, de présidentialisation de la fonction diplomatique française depuis quelque temps sous l'égide de Emmanuel Macron.
J'ai connu un certain nombre de présidents et j'ai commencé avec le général de Gaulle. Oui, et je suis rentré en diplomatie parce que le général de Gaulle était président de la République française. Et donc c'est à son exemple que je mesure ensuite ce qui s'est passé. Et je pense que les problèmes qu'il peut y avoir, que vous mentionnez, entre les impulsions au niveau du président et les lourdeurs de la machine, elles sont naturelles. Elles ont toujours existé, à certains moments plus qu'à d'autres, parce que la diplomatie au sens de définition d'une doctrine et mise en œuvre d'une doctrine de la France dans le monde qui évolue, la diplomatie est forcément lente. Il ne peut pas y avoir une diplomatie de l'impatience et de l'urgence. Il peut y avoir des réponses à des crises particulières, mais la diplomatie se forme dans la réflexion. Et vous avez mentionné tout à l'heure l'importance de l'appareil diplomatique français, le fait que nous avons, et que nous sommes pratiquement une des seules puissances dans le monde à avoir des ambassades partout. Nous en avons partout parce que nous voulons être informés de ce qui se passe dans le monde. Donc, ce réseau permet à la France d'être informée et de progressivement adapter son discours, son analyse et sa capacité d'action à l'évolution du monde. Et puis au-dessus, il y a un pouvoir politique, et je ne critique absolument personne et je ne vise personne, puisque cette réflexion est basée sur la durée, il y a un pouvoir politique qui est impatient. Et il est plus impatient, permettez-moi de le dire, depuis qu'on est passé du septennat au quinquennat. Le septennat donnait au président de la République française, qui est le chef naturel de la diplomatie française, la capacité d'évoluer dans la durée. Le général de Gaulle lui-même, il est revenu au pouvoir en 1958, 59 président de la République, et les grands choix du gaullisme en matière de politique étrangère, ils datent de 65, 66, 64 pour la reconnaissance de la Chine, on sort de l'OTAN, on fait un certain nombre de choses tout à fait spectaculaires qui définissent la nouvelle et qui symbolisent la nouvelle diplomatie française. Donc le général de Gaulle a pris son temps. Et aujourd'hui, hélas, à la fois par le rôle inévitable des médias et par le raccourcissement du mandat présidentiel, on est dans une diplomatie qui
doit réagir
aussi sa part à l'impatience, à l'urgence. Oui. Et je crois que c'est pas très bon et qu'il peut y avoir quelquefois la nécessité d'écouter un peu plus en dessous un appareil diplomatique qui lui forge une diplomatie de la durée.
Oui, Delphine Passy-Diffro, le général de Gaulle ne connaissait pas d'homologue qui tweetait jour et nuit sur la politique internationale comme le fait Donald Trump, par exemple.
Absolument, et je pense que ce qui vient d'être dit à la fois sur le raccourcissement du temps politique, ou l'accélération, disons, du temps politique lié au quinquennat, s'accompagne également de l'omniprésence aujourd'hui de l'information, et avant même les réseaux sociaux, déjà les chaînes d'information en continu, hein, l'effet CNN qu'on a mesuré dans les années 90, où il fallait systématiquement avoir une information fraîche en matière d'actualité internationale.
Et des réactions.
et des réactions. On l'a même observé dans toutes les grandes négociations internationales. Aujourd'hui, une négociation qui n'aboutit pas à une convention ou à un traité, il faut au moins qu'il y ait une déclaration commune, qui est parfois souvent complètement vide de sens, mais qui est là aussi pour montrer aux journalistes qu'il y a quand même eu un travail qui a été effectué et une concertation. Et l'omniprésence aujourd'hui des réseaux sociaux, les diplomates s'y sont mis, mais effectivement avec une certaine parcimonie, une certaine prudence que n'ont pas forcément certains responsables politiques.
Maxime Lefeur.
Oui, moi je pense qu'on ne peut pas faire de diplomatie de politique étrangère sans des initiatives. Et donc les initiatives, il faut qu'elles soient portées au niveau politique à un moment donné. Donc il y a des crises qui peuvent justifier des réactions politiques fortes. Je pense par exemple l'invasion de l'Irak en 2003, quand la France a décidé de refuser cette invasion et que Dominique de Villepin a fait ce discours au Conseil de sécurité de l'ONU, qui est évoqué dans le film que vous rappeliez en début d'émission.
D'Orsay.
Et puis après, vous avez besoin d'initiatives. Quand vous voulez faire de nouvelles choses, quand vous voulez obtenir un résultat, la France par exemple en 2015 a voulu réussir la COP21 pour avoir un accord contre le changement climatique. Bon bah ça, il y a une mobilisation énorme de la diplomatie française face à une politique qui avait des objectifs continus, mais à un moment donné, la politique a donné l'impulsion, des objectifs, un suivi, une direction. Et ça, je pense que ça reste nécessaire.
Et cette liaison dont on parlait tout à l'heure entre cette rapidité de l'information, cette rapidité des réactions, des citoyens qui se mondialisent et qui font le tour de la Terre très rapidement par l'intermédiaire des réseaux sociaux pour réagir à une initiative diplomatique, par exemple, et pour s'unir sur la question du climat ou sur d'autres questions, tout cela, c'est quand même une donnée nouvelle qui rend peut-être encore un peu plus complexe la gestion diplomatique d'un pays comme la France.
Oui, mais bon, d'abord, je crois que c'est pas complètement nouveau, mais c'est vrai que, en termes de degré, on atteint un niveau où, effectivement, l'information circule de façon instantanée, il y a une pression dite de l'opinion, mais qui peut aussi être une pression des médias. Moi, je me souviens, par exemple, j'ai travaillé au cabinet de Hubert Védrine, à un moment donné, on avait des pressions très fortes pour réagir sur ce qui se passait en Tchétchénie, en Russie, et donc, il y avait un problème avec la répression russe en Tchétchénie, et d'un côté, il y avait le fait qu'on pouvait pas faire grand chose en réalité. On pouvait s'indigner, mais on pouvait pas faire la guerre ou la Russie ou entrer dans une politique de confrontation ouverte. Et en même temps, il fallait dire des choses, et donc il fallait à un moment donné que Hubert Védrine sorte un peu de sa langue diplomatique pour prononcer des paroles d'indignation à l'Assemblée nationale ou dans les médias, peut-être allant au-delà de ce que lui-même aurait voulu, été prêt à faire au nom d'une certaine continuité de nos relations avec la Russie. Mais voilà, ça ce sont des exemples où effectivement il faut trouver un curseur entre d'un côté réagir aux attentes de l'opinion et de l'autre côté et avoir une politique qui reste réaliste, qui reste dans la continuité.
Sur ce point, Claude Martin, vous avez l'impression que la langue diplomatique, très brièvement, parce qu'on arrive au bout de l'émission, la langue diplomatique change justement avec l'arrivée de ces tweets, l'arrivée d'un président américain ou de président ou de premier ministre britannique qui n'hésite pas à avoir une langue un peu plus verte que la langue diplomatique que vous pratiquiez vous-même en tant que diplomate.
La langue diplomatique a été quelquefois assez verte. La différence, c'est que maintenant, il y a beaucoup plus souvent un micro pour enregistrer des propos qui n'étaient pas forcément destinés à être diffusés. Mais sinon, je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Maxime Lefebvre. La différence est entre la prise de position, souvent exigée par les médias, par les réseaux sociaux, par l'opinion, et l'action. L'action diplomatique est forcément lente, mesurée, réfléchie, parce qu'elle comporte cette part d'évaluation des moyens. On peut réagir à chaud sur tous les problèmes du monde, mais ensuite, il faut voir ce qu'on fait, avec qui, comment, si on a les moyens d'agir. Et ça, c'est un problème qui impose de la durée. Donc, il faut à la fois pouvoir réagir, et c'est la raison pour laquelle souvent, ces réactions sont des réactions creuses. C'est la raison pour laquelle la langue diplomatique apparaît si souvent une diplomatie, une langue assez vide, et l'action qui, elle, est souvent secrète, par en dessous, beaucoup plus lente mais efficace.
Merci beaucoup. On pourra comprendre ce que vous nous dites à propos de votre vie et de diplomate dans La diplomatie n'est pas un dîner de gala. Mémoire d'un ambassadeur aux éditions de l'Aube. C'est un livre tout à fait formidable, ainsi que celui de Maxime Lefebvre, beaucoup plus court celui-ci parce qu'il dure 127 pages dans la collection Que sais-je, donc aux presses universitaires de France, La politique étrangère de la France. Merci à vous Delphine Placidifrou. Merci à vous Claude Martin ainsi que Maxime Lefebvre. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Baille, Hugo Boursier et Louise André. À la technique aujourd'hui, Adèle Caglar. Et à la réalisation, Marie-Laure Ciboulet.